Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vacarme en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Des murs qui sont bien, même dans le métro, des machins qui sont tout neufs, ils font des crafoutis partout, ça sert à quoi ça?
Vous comprenez ce genre de... Non, vous comprenez pas non plus vous. Non, je comprends pas.
Salut les kids, c'est Vacarme en Réunion. On a vu que les tags étaient en hausse de 40% à Dijon, et du coup, on a pris un peu de temps de se demander si c'était une bonne nouvelle ou pas.
Quand on a décidé de travailler sur le graphe, on a essayé pour une fois de faire les choses sérieusement. Alors, on est parti à Besançon pour rencontrer quelqu'un qui avait soutenu une thèse il y a quelques années à propos du graphe.
Alors, je m'appelle Nicolas Mensch, j'ai soutenu ma thèse en décembre de 2013, une thèse qui s'intitule « L'art transgressif du graffiti, pratique et contrôle social ». Alors, c'est une thèse qui s'intéresse au graffiti hip-hop, un phénomène qui a émergé aux États-Unis dans les années 1960 avec le tag et qui a développé des formes d'expression de plus en plus complexes avec des graphes notamment. Et c'est une culture d'origine américaine qui a été saisie en Europe dans les années 1980. Moi, je me suis intéressé à la manière dont aujourd'hui les gens pouvaient faire partie de ce mouvement, comment ils pouvaient pratiquer ces différentes expressions artistiques, picturales. Alors, ça constitue la première partie de mon travail. Et après, ce qui transparaît dans ce mouvement, c'est la contradiction ou la complémentarité. Ça dépend un peu comment on saisit le phénomène. C'est une contradiction entre un mouvement qui fait peur, qui est agressif, qui est dans une certaine manière de voir assez violente, qui est en tout cas illégale pour une grande part de ses pratiques. Ouais. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui est aussi artistique, reconnu. Salut gros, ça va ?
Ouais. Mais finalement, il nous a présenté les gens qu'il avait rencontrés pour faire sa thèse et il s'est avéré que c'était un peu dur de rester sérieux.
Ouais, ça va.
Salut.
Bobby. Bonjour tout le monde.
Salut.
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 Bobby.
Présente une bande de Dijonais.
Notre mission, elle s'appelle Vacarme en Réunion.
Ah, bah si tu dis Vacarme, t'es tombé sur les bonnes personnes.
Du coup, ils nous ont embarqués et nous, on les a suivis.
Si vous voulez des frites,
terrain militaire, défense d'entrée, article 413 alinéa 5 du code pénal. Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Vague, eh bien c'est que c'est une marge dans la ville et qu'à l'intérieur de cette parenthèse, eh bien peuvent s'élaborer un tas de comportements, de pratiques, plus ou moins à l'écart de la norme.
Une norme environnante.
Voilà, tu vois, par rapport au centre-ville où on était tout à l'heure, tu vois, t'entends les oiseaux, quoi. T'as une certaine tranquillité.
Ouais, on entend la ville, c'est devenu une espèce de rumeur au loin, quoi. Putain, il y a un frigo radioactif avec des espèces de bulles figées sur le dessus, là. Ça devait être un terrain d'expérimentation militaire.
J'aurais peut-être pas trop t'approcher, mais pas toucher.
Non, mais t'as vu ça? Franchement, ils faisaient des expériences radioactives sur les frigos ici.
Là, au niveau technique, il avance en coloriant son esquisse au fur et à mesure, quoi.
Ouais.
Vous voyez, il a l'esquisse avec la couleur de l'intérieur.
Ouais.
Puis il la remplit au fur et à mesure, quoi. Il attend pas d'avoir fini l'esquisse pour savoir où il va.
Quoi,
tu fais l'esquisse, tu la colories en même temps, quoi. Tu sais, t'avances, quoi. T'attends pas qu'il soit fini ton lettrage, tu vas petit à petit, ça s'est pas habitué.
C'est une technique comme une autre, quoi.
Bah, c'est parce que tu sais où tu vas, quoi.
Ouais, pas forcément.
Bah, tu parles, il a son petit dessin, là, ça fait 10 ans qu'il fait des petits dessins comme ça, 15 ans.
Quoi, la plupart du temps, les gens, ils font plutôt toute leur esquisse et après, ils colorient, comme ça, ils peuvent rectifier.
Ouais, voilà, ouais.
Ouais,
mais... Là, c'est pas habituel, tu le fais jamais ça. Ce peintre signe habituellement le pseudonyme Sheikh. Alors, on voit qu'il a utilisé le verlan là.
Ouais.
Sheikh, comme regarde, Sheikh.
Ouais.
Sheikh, comme peut-être. Peut-être qu'il y a un crime de lèse-majesté, tu vois, lié au Sheikh, au grand Sheikh arabe qui assume le pouvoir.
Tu calcules quoi là?
Je calcule le milieu du mur en fait, ce que je vais me mettre au-dessus, donc il faut le diviser en deux,
à l'horizontale,
puis comment je vais élargir mes lettres.
Ouais.
Bien prendre
ça va
l'espace,
te faire chier là, le fait qu'il y ait plein de trucs en dessous.
Non, parce que ça c'est du chrome, c'est de la peinture très couvrante, donc ça va repasser totalement sur en dessous.
Ouais, tu fais pas un aplat.
Non, puis étant donné que c'est de la tôle ondulée, ce serait chiant de mettre une première couche auparavant, en fait. C'est difficilement applicable. Autant y aller avec la peinture plus grande, en fait.
Ouais.
Je pense que c'est plus simple.
Le tag, c'est une signature parce qu'on n'a pas le temps de faire un graphe déjà. Il n'y a pas assez de murs qui nous permettent pour faire un graphe, quoi. Personne ne voudrait qu'on fasse un graphe en pleine rue. Alors, vu qu'on n'a pas le temps, on pose carrément un tag, quoi, une signature. Et plus t'en poses et plus t'es connu, quoi.
Bon, on va vous expliquer quelques vocabulaires. Le flop, c'est des lettres flop, quoi, des boules. C'est plutôt rond, un peu gros, quoi. Il y a le bottom, c'est les lettres carrées, quoi. C'est des cubes, quoi, et... On coupe dedans ce qu'on veut, les lettres qu'on veut.
J'ai rien à foutre, il peut se passer n'importe quoi, je continue. Dans la mesure où genre, rien que je parle au téléphone, j'ai un stylo en la main, je commence à massacrer sur des feuilles de papier partout, et dès que t'as un stylo en la main, t'es obligé d'écrire. Voilà, c'est même pas écrire pour communiquer, c'est écrire pour le plaisir d'écrire. C'est, en photographie, c'est redécouvrir le plaisir d'écrire, c'est vraiment fond d'art.
Non, c'est du turc, c'est du romain, c'est quoi? Vous le savez, vous?
Moi, j'aime bien me représenter le graffiti comme une relève noble de notre calligraphie occidentale qui est flamboyante il y a 10 siècles et aujourd'hui un peu moribonde. Souvent maintenant, ce sont des clubs de cathos qui écrivent des psaumes avec un ou deux petits ornements, mais pas terribles. À une certaine époque, tous les manuscrits enluminés 10e à 13e siècle étaient des choses quand même un peu mieux que ça. Donc la calligraphie arabe, les calligraphies asiatiques, elles sont assez prisées en Europe, en Occident depuis certaines années, mais je crois qu'elles sont plus vivantes, plus vivaces que la calligraphie latine aujourd'hui. C'est des exemples de lettres enluminées qui tout le monde traçait le lien entre la calligraphie ou des formes d'écriture européennes traditionnelles et le graffiti aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait à ma connaissance d'équivalent de ces initiales enluminées. Donc dans les manuscrits, ça c'est, je crois que c'est 12e siècle, ça est une chose vraiment proprement européenne. Il n'y a pas d'équivalent dans la calligraphie arabe, dans les calligraphies chinoises, japonaises, pour vous montrer un peu les différences dans la façon de tenir le point. Dans la calligraphie arabe, on a des points qui sont tenus, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais lâchés, le trait ne part jamais. Et dans le graffiti, c'est la même chose, pour la bonne raison aussi que... les choses ayant vocation à être réalisées aussi à la bombe. Si à la bombe vous lâchez le trait, ça fait n'importe quoi. Il y a une variation dans l'épaisseur du trait qui fait que ce ne sera jamais réussi. Et puis par ailleurs, tenir le trait jusqu'au bout, c'est la meilleure façon de le guider exactement où on veut. Et dans la calligraphie arabe, c'est des lignes tenues, donc on pourrait croire qu'elles ne le sont pas parce qu'elles s'affinent, mais en fait c'est fait avec le kalam, qui est une espèce de roseau tranché, qui est un biseau, qui s'affine, mais chaque fois, ça s'affine de façon régulière, avec toutes les choses au bout, chaque fois que c'est relevé, c'est tenu dans l'affinement. On tient la chose de façon légèrement différente, on la relève de sorte à ce que ça s'affine, mais jamais le trait est vraiment lâché. Tandis que là, on voit assez bien dans l'usage de certaines formes géométriques, la lettre doublée, les couleurs, l'emploi un peu d'un bestiaire, les animaux. On voit qu'on a une forme qui n'est pas sans rapport avec le graffiti aujourd'hui.
Et c'est pas genre si t'as un truc à dire de valable, je sais pas quoi, essaye de le mettre sur un mur, comme ça plus les gens vont le voir. Et, dans la rue, ça aide dans la communauté quoi, à créer un peu un discours entre, je sais pas, genre deux gens qui jamais se parleront dans la rue, ils se croisent devant un mur, c'est nouveau, ils ont des trucs à se demander quoi, genre des questions à se poser l'un et l'autre sur le mur.
Faire un graffiti, du coup, c'est écrire sur les murs. Alors, on s'est un peu intéressé à l'histoire du graffiti très rapidement et on est tombé sur un article de Céline Braconnier qui s'appelle « Braconnage sur terre d'État ». Et Céline Braconnier, elle a travaillé sur les inscriptions politiques séditieuses dans le Paris de l'après-commune, c'est-à-dire sur la période de 1872 à 1885. Alors, elle a travaillé un peu sur quel genre d'inscriptions politiques apparaissaient sur les murs de Paris, pourquoi est-ce qu'ils étaient nettoyés et pourquoi est-ce qu'ils apparaissaient. Alors, je vais vous lire un passage d'un article d'elle qu'on peut trouver sur Internet et qui s'appelle du coup « Braconnage sur terre d'État ». Le vandalisme outrage la civilisation des mœurs politiques. À ceux qui ne résistent pas au plaisir d'étendre la main vers ceux qu'ils convoitent, aiment ou détestent, les conventionnels promettent des poursuites. Les textes qui font d'eux des délinquants disent dans le même moment qu'il y a loin du registre traditionnel d'expression contestataire au mode légitime d'une expression citoyenne dont on s'emploie alors à délimiter les formes. Les gouvernants savent, au cours du XIXe siècle, parfaire un dispositif législatif qui organise le marquage de l'espace public en véritable monopole étatique. Des monuments au mobilier urbain, des plaques de rue aux murs, de soutènement, l'emprise matérielle sur la ville a pour pendant la protection particulière qu'offre aux ouvrages construits par ou avec l'autorisation de l'État, l'article 257 du Code pénal. Effet indirect, involontaire et incontrôlé d'une démocratisation qui passe par l'affirmation de l'individu citoyen comme acteur majeur de la sphère publique, cette modification du genre aggrave l'outrage du geste vandale, car la parole qu'on donne alors au citoyen, qui a ses formes, ses temps et ses lieux imposés, légitime le fait que la plupart des dispositifs publics obligent et incitent à se taire. En deçà des bureaux de vote et de leur éphémère existence, en deçà des espaces publics fermés plus ou moins tolérés, mais dont la clôture favorise la surveillance, l'espace public ouvert de la rue est celui dans lequel le silence est requis et toute rupture non décrétée par le gouvernement aperçue comme le germe d'un désordre. Le citadin, soumis aux impératifs de la circulation par les officiers de paix, n'a pas grand-chose à voir avec la figure du citoyen. Et le graffitiste qui prend d'autorité part au débat public en faisant de l'espace public le lieu de ses interventions rompt donc aussi avec les règles d'un jeu en train de se fixer et qui n'a pour modèle ni le forum ni l'agora. En prêtant attention au lieu et au moment d'inscription, à la forme comme au contenu des graffitis, ce ne sont ni des gamins, ni des fous, ni des barbares que l'on est amené à lire, mais des anonymes qui dévoilent par là une face cachée de la construction de l'espace démocratique dont on cherche en vain la trace dans une littérature autorisée. Ces prises de parole produites dans l'illégalité révèlent d'abord les interdits qui accompagnent l'avènement d'une sphère publique limitée à l'espace de l'imprimé quand elle est réputée ouverte à tous. À travers elle s'opère une reconquête de la rue, seul espace de publicité accessible à tous, et donc une démocratisation de fait, fragile et éphémère de l'espace public. Les interdits ne sont pas seulement enfreints, ils sont aussi dénoncés. Le discours graffitiste est largement structuré par une rhétorique de l'expropriation des représentants de l'État qui donne tout son sens aux gestes qui les portent. Les rues ne sont conquises que parce que sont dans le même temps évincés par des mots ceux qui s'appuient sur elles pour asseoir leur pouvoir. Voilà, du coup, on pourrait résumer ça en disant que la répression du graffiti, la répression du fait d'écrire des choses sur les murs, elle naît un petit peu avec la délimitation d'une sphère publique autorisée. C'est-à-dire la démocratisation crée une sphère publique où on va donner la parole aux citoyens. Et en même temps, puisqu'on a délimité une sphère dans laquelle le citoyen a droit à la parole, on va réprimer les modes d'expression qui dérogent à cet espace public. Du coup, on voit qu'il y a par là une espèce de prise de contrôle de l'État et du gouvernement sur quelles doivent être les méthodes d'expression. Alors, tout ça, c'est encore assez parlant quand on pense à la situation actuelle. Et par exemple, on peut se dire que effectivement, ce qui gêne prioritairement dans le graffiti, c'est entre autres de s'exprimer dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Et entre autres, on peut remarquer que les inscriptions politiques ou les inscriptions qui vont, je sais pas, parler du gouvernement, parler d'un peu n'importe quoi, l'expression de gens qui sont un peu énervés, vont être effacées prioritairement. Souvent, les mairies prétextent du fait qu'on doit effacer en priorité les inscriptions politiques, racistes et homophobes. En fait, dans les faits, on lit très peu d'inscriptions homophobes, racistes, etc. Mais tout ça va être taxé de politique pour qu'on puisse permettre prioritairement d'effacer les tags politiques. Et on voit que les blagues ou les gros graphes vont rester plus longtemps. On va faire un petit tour sur cette histoire de répression. D'abord, on va écouter Altarba.
Allô, sécurité ? Une nuit, alors que j'étais en service dans le bâtiment accolé à l'atelier de la 2, sans chien, vu que j'étais juste veilleur de nuit, j'ai aperçu deux silhouettes à côté des grilles d'entrée. Mon contrôleur m'avait bien prévenu. Souvent ici, il y a des taggeurs qui viennent tout saccager. Ah oui ? Oui, et encore, depuis quelques années, ça s'est calmé. Avant, dans le dépôt de Nation, j'ai déjà eu des gars qui se sont fait planter. Et fais gaffe, ils sont très rusés. Ils te font des rondes, comme toi, pour savoir si tu piques du nez. Alors je compte sur toi. J'ai viré ton prédécesseur parce qu'on lui a fait à l'envers. Moi qui avais demandé à être sur ce site parce qu'il était à deux pas de chez moi et qu'il paraissait tranquille. Enfin, quoi qu'il en soit, les deux silhouettes sifflaient, frappaient à ma porte et ne cessaient de zioter vers les métros visibles de la rue, garés juste à côté. Que dois-je faire ? J'appelle les flics ou je vais leur parler ? Ce sont des jeunes comme moi. Bon, arrêtons la blague, je leur ouvre la porte. Le plus excité se précipite. C'est bon, il n'y a personne, juste des nettoyeurs dans l'atelier. On va le niquer. Haha, chamé, moi. Vous êtes en retard. Va falloir peindre vitre et à tour de rôle. Mon contrôleur risque de passer. Sors, commence avec Geki, ensuite moi je viendrai. Voilà comment je me suis retrouvé à peindre ce métro en costume d'agent de sécurité, fait deux fois tout seul dans le grand atelier ce même été. Kig a juste eu à terminer mon fond quand le jour a commencé à se pointer. Dans l'immeuble d'en face, c'était l'heure de se réveiller.
Face de guerre, c'est le retour à l'âge de pierre. Mes pensées s'éparpillent irrémédiablement. sèche, qui crache de l'an. Cerveau tri, les bouts d'un buzz, je me mets la grosse partout, c'est l'air. Si la tour à tour, je les pète, si je rappe, c'est que pour l'amour des verres. J'dis la ta coupe de la foulée, je baisse. Rache pour la mousse et verre. Allez, là, coûte la boucle, je déverse. Franchine pas, ouvre la bouche et pète. Laissez-moi pas pousse ma soupe et gerbe, enfile-toi, bout par bout, mes pères.
Donc le graphe, dans sa forme un peu moderne telle qu'on le connaît aujourd'hui, on a l'habitude de dater son origine à New York dans les années 70. Et nous, à Paris, on a rencontré Chris qui a fait une présentation un peu de ce que c'est que le graphe. Et du coup, d'abord dans des formes, dans ses formes un peu techniques. Et ensuite, il nous a reparlé un peu de l'histoire du graphe. Du coup, on va l'écouter. Il nous parle du graphe à New York. Et ensuite, on parlera de la répression, justement, comment est née la répression du graphe à New York. Voilà, on vous laisse écouter. C'est Chris qui nous parle de New York.
On va faire un rappel historique sur l'histoire du mouvement. Ça, c'est un article. Friday, 21 juillet 1971, dans le New York Times. C'est le truc, c'est vraiment l'article qui a lancé le mouvement, qui a donné la première forme de notoriété d'exposition publique au graffiti. C'est un article sur ce mec qui s'appelait Taki 183, qui était un jeune du Bronx, qui était paperboy, il distribuait les journaux. Et il a commencé à faire ça, donc un fossile du graffiti, un grand intérêt archéologique. Et ça donne une idée de la façon dont la chose était, combien c'était peu développé au début. Là, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir la différence entre un graffiti au sens ordinaire du terme, au sens courant, Mundo plus Vicky. Moi, je suis Mundo, je suis avec ma petite Vicky, je la kiffe, on est sur le pont de Brooklyn, allez, Mundo plus Vicky, ça fait plaisir. Donc ça, graffiti à l'ancienne de soi-même avec sa nana ou slogan politique. Ça, c'est vraiment un graffiti au sens ancien, une inscription sur un mur. Tandis que les choses qu'on voit autour, alors Taki est resté et passé à la postérité comme étant le premier. L'autre au-dessus, Che 159, exactement pareil. Au début, c'est la forme canonique du truc, un nom d'emprunt, donc c'est quand on passe vraiment tout de suite dans le graffiti, et puis le nom d'emprunt, Taki ou Che, trois ou quatre lettres, c'est assez proche de ce qui se fait maintenant toujours, et en dessous aussi, Easy 134, tout ça c'est des tags, c'est la naissance du graffiti dans sa forme actuelle. Et alors au départ, ce qui tenait lieu de crew, il n'y avait pas de crew, c'était les numéros de rue à New York. 183, 159, et au départ c'était le nom d'emprunt, le blaze et la rue. Et après, vite, ils vont abandonner le numéro de rue parce que la répression s'intensifie et que c'est pas très malin de tout de suite give out que, au fait, si tu me cherches, moi c'est 159e, et donc ça réduit déjà un peu le champ de l'enquête, quoi. Donc le numéro de rue, ça se pratique moins. Ouais. Essayez pas maintenant d'y revenir, c'est vraiment anachronique. Donc ça, c'est le tout début. Après, et. 1971, ça va prendre 10 ans plus tard, ça a complètement explosé à New York. On compte à peu près 5000 writers, comme on dit à l'époque, writers, qui écrivent, c'est des pratiquants du graffiti. Ça s'emploie encore maintenant, writer, mais c'est un peu prétentieux. Donc en 10 ans, ça a vraiment explosé comme phénomène new-yorkais. Ça se développe pas mal sur fond de crise, apparemment dans la deuxième moitié des années 70. New York perd beaucoup d'emplois, une partie de sa population. Il y a des politiques d'urbanisme qui délaissent pas mal le Queens, le Bronx au profit de Manhattan. Et c'est beaucoup des mecs des ghettos du Bronx, mais pas du tout que des blacks, il y avait aussi pas mal de blancs à l'époque, qui vont se mettre à faire du graffiti. Donc c'est intéressant de noter que ça naît comme espèce de contrepoint, quoi, à une existence de merde dans la ville un peu dévastée, New York de l'époque, où les gens peut-être trouvent plus trop de sens à leur vie, du coup ils font ça d'aller faire des graffitis. Au début, ça, et alors ça commence comme ça, et 10 ans plus tard, c'est New York 1981, donc le truc s'est considérablement développé. Il y a beaucoup de writers dans New York et qui peignent énormément le métro. C'est vraiment des choses un peu emblématiques de l'âge d'or du graffiti où les trains n'étaient pas encore effacés. C'est en 1989 pour la première fois que la mairie de New York se donne comme objectif pas un train peint en circulation. On laisse plus circuler les wagons avant qu'ils aient été nettoyés. Et c'est au début, et c'est dès 1980-81 qu'ils développent les premières techniques de nettoyage intensif, efficace, qu'on appelle buffing, to buff, c'est effacé en anglais, où les rames passent dans des dans des grands portiques qui les pulvérisent de substances chimiques de tous les côtés, et le train ressort tout neuf. Ah, ça, magnifique. Donc, ça, c'est remarquable. Take it from the champs, graffiti is for champs. Donc, croyez-en les vrais champions, le graffiti c'est pour les bouffons. Hector Camacho, Alex Ramos, deux boxeurs célèbres de l'époque. Ça, c'est le début des grandes campagnes de répression anti-graffiti décidées par le maire de l'époque qui s'appelait Cor. Voilà, Edward Kormayer, là, qui était le maire de New York pendant presque 20 ans, je crois, à l'époque, 15 ans. Début 82, ça débute vraiment la répression du graffiti sévère, adossée au système de buffing, donc les trains sont effacés de façon beaucoup plus efficace, et en plus, ils sont même allés jusqu'à faire ce genre de conneries, donc des boxeurs de haut niveau qui prenaient la pose pour expliquer aux gamins « Make your mark in society, not on society », bon, alors, vraiment des slogans impeccables avec lesquels on peut qu'être d'accord, et voilà, donc bon, bah, ces deux couillons se sont bien ridiculisés, et ils ont raté une bonne occasion de rester chez eux, mais c'est le genre de trucs qui se sont faits à l'époque pour essayer de dissuader les jeunes de faire du graffiti. Il faut bien penser que la plupart des writers à l'époque ont entre 15 et 25 ans, et plutôt entre 15 et 20. C'est fréquent, les mecs commencent souvent à 15-16 ans. En gros, toute la fin des années 70, les mecs peignent des métros qui circulent tout le temps, tout reste, et au début des années 80, pour la première fois, ils commencent à se faire effacer complètement des machins, et ça ébranle un peu le mouvement. Et 89, la municipalité de New York adopte comme objectif plus un métro peint en circulation, et je pense qu'ils l'ont plus ou moins tenu. Donc vraiment la grande époque du graffiti new-yorkais, ça a été les tout débuts, c'est acquis peut-être 69, 70, de 75 à 85, ou fin des années 80, une grande période faste, et puis après ça s'est un peu calmé. Time again, as I pick up the pen, as my thoughts submerge, these are those words. I glance at the paper to know what's going on. Someone's doing wrong. The story goes 1, 2, 3. The crew is called BDP. And if you wanna go to the tip top, stop the violence in hip hop. Why?
Donc comme le graff est né à New York, on peut dire que les formes de répression du graff, on trouve aussi leur origine à New York. Et on a trouvé entre autres un article de Loïc Vacan qui réexplique un peu, donc Loïc Vacan qui est un sociologue français qui a beaucoup travaillé sur le paradigme sécuritaire et sur la question des prisons. Et là, on a trouvé un article où il fait une espèce de généalogie du paradigme sécuritaire moderne, et où lui, il le fait remonter effectivement à New York dans les années 80. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des histoires du graff qui parlent un petit peu de cette période-là et de la naissance de cette répression. Et tout le monde parle de ce qu'on a appelé la tolérance zéro, comme une espèce de nouvelle théorie politique. La tolérance zéro qu'en France, on a connu aussi récemment. C'est surtout Nicolas Sarkozy qui parlait de ça, mais qui est une espèce de théorie qui s'est un peu répandue à travers le monde après être né à New York. Et entre autres, dans cette idée de tolérance zéro, les graffeurs étaient particulièrement visés. Et du coup, cette idée de tolérance zéro, elle s'appuyait sur une vieille théorie qui s'appelle la théorie de la vitre brisée. Peut-être vous en avez entendu parler, parce que j'ai l'impression qu'on en parle dans les cours de philo au lycée ou des choses comme ça, mais qu'on nous l'explique jamais très bien. Et du coup, cette théorie, elle est forgée par des sociologues, des gens, des criminologues, et elle dit que si jamais il y a une vitre brisée dans une rue et qu'on la répare pas, eh ben les gens, ils vont penser qu'en fait tout le monde s'en fout et que ici il y a un espace d'espace d'impunité où tu peux briser l'endroit, ou simplement ils vont penser que c'est abandonné, etc. Et du coup eux aussi vont se mettre à briser des vitres qui sont à côté, puis ils vont se mettre à taguer l'immeuble, puis l'immeuble va être squatté parce qu'on a l'impression qu'il est abandonné, et du coup il y a des réseaux de drogue qui pourront se propager à cet endroit-là, et la grande criminalité va arriver. Et du coup cette théorie de la vitre brisée, elle dit que en gros si on tolère des petits faits de criminalité, de délinquance, c'est pas de la criminalité, du coup des petits faits de délinquance ou d'incivilité, eh ben ça va entraîner obligatoirement une grande criminalité, et du coup les agressions, les meurtres, etc. quoi. Du coup c'est une vieille théorie qui avait été un peu oubliée dans l'histoire de la politique parce qu'elle est un peu bidon en fait, le passage de la criminalité de casser une vitre ou faire un tag à celui de aller buter des gens, on voit bien que ça marche pas quoi, que ça peut pas s'enchaîner comme ça. Mais elle va être remise au goût du jour à New York dans les années 80 par le maire de New York qui s'appelle Rudolph Giuliani pour pouvoir mener une politique de tolérance zéro à tous les petits actes d'incivilité et de délinquance quotidienne. C'est-à-dire sa réponse pour lutter contre les réseaux de drogue à New York, les agressions, la grande criminalité, ça va être d'être particulièrement dur et sévère avec toutes les incivilités et toute la petite délinquance quotidienne. Alors on peut lire un bout de l'article de Loïc Vacan. À New York, nous savons où est l'ennemi, déclarait William Bratton, le nouveau chef de la police de New York, lors d'une conférence prononcée en 1996 à la Fondation Héritage, l'une des boîtes à idées de la nouvelle droite alliée au Manhattan Institute. En l'occurrence, les Squeegee's Men, ces sans-abri qui accostent les automobilistes au feu pour leur proposer de laver leur pare-brise contre menu monnaie. Les petits revendeurs de drogue, les prostituées, les mendiants, les vagabonds et les graffiteurs. Bref, le sous-prolétariat qui fait tâche et menace. C'est lui que cible en priorité la politique de tolérance zéro, dont l'objectif affiché est de rétablir la qualité de vie des New-Yorkais qui savent, eux, se comporter en public, c'est-à-dire des classes moyennes et supérieures, celles qui votent encore. Comme son nom l'indique, cette politique consiste à appliquer la loi au pied de la lettre avec une intransigeance sans faille, en réprimant toutes les infractions mineures commises sur la voie publique de sorte à restaurer le sentiment d'ordre et à forcer les membres des classes inférieures à moraliser leur comportement. Pour lutter pied à pied contre tous les petits désordres quotidiens que ces derniers causent dans la rue, trafic, tapage, menaces, déjections, ébriété, errance, la police de New York utilise un système statistique informatisé qui permet à chaque commissaire et à chaque patrouille de distribuer ses activités en fonction d'une information précise, constamment actualisée et géographiquement localisée sur les incidents et les plaintes dans son secteur. Et du coup, ensuite, dans l'article, il explique comment ce paradigme sécuritaire, il va prendre la forme de beaucoup plus de flics à New York, etc. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le graphe, les inscriptions dans la rue, le tag, etc., il devient le symbole dans cette politique de tolérance zéro du désordre qui pourrait s'ouvrir et de la grande criminalité. Et du coup, on va criminaliser ce geste, on va aggraver ses conséquences. On va en faire le symbole de ce contre quoi il faut lutter si on veut avoir de l'ordre dans sa ville. Et c'est ce qu'on a vu, un ordre qui peut être aussi un ordre moral, par exemple. Ça, c'est quand même une idée qui est intéressante parce qu'elle veut dire aussi que quand on réprime juridiquement un graffeur, par exemple, on le réprime pas tant pour la dégradation qu'il a commis, parce qu'en fait, un graphe, ça se recouvre avec trois coups de pinceau et ça coûte pas grand-chose à la ville, quoi qu'on en dise, ou à son propriétaire. Mais on le condamne surtout pour la porte ouverte qu'il est supposément, qu'il est supposé avoir ouverte sur d'autres faits de délinquance. Du coup, on le condamne pas tant pour ce qu'il a fait que pour ce qu'on suppose qu'il aurait pu permettre par ailleurs par son geste. Voilà, du coup, on peut faire un retour sur les formes que prennent cette répression du graphe actuellement. On va écouter Nicolas Mensch, qu'on a entendu tout à l'heure, qui a travaillé du coup pendant quelques années sur le graphe et qui nous parle rapidement des politiques de répression du graphe à Bezac.
Bien sûr, il y a de la répression qui est organisée par rapport à ça, quoi. Ça se concrétise par un texte de loi qui est article 322 du code pénal, qui a été adopté le 1er mars 1994. Et ça fixe les peines maximales à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Alors à partir de ça, les personnes qui sont interpellées pour ce type de délit, elles se font juger selon leur parcours, selon leur profil, etc., selon tout un tas d'éléments. Les juges prononcent des peines qui commencent généralement par des peines de travaux d'intérêt généraux, des petites amendes, puis qui, au fur et à mesure des récidives, sont des peines de plus en plus lourdes. Généralement, les juges ne prononcent pas des peines de prison pour des gamins la première fois qu'ils les voient, tu vois. C'est pas, il y a une répression froide et aveugle sur le phénomène.
Comme d'hab, ouais, je fais tout. Et ici, à Besançon, ça...
Enfin, c'est mis en œuvre comment, quoi, tu as peur? Des brigades anti-tag.
À ma connaissance, pas spécifiquement à la police, quoi. Il n'y a pas de service dédié à ça. Mais tous les matins, eux, ils recueillent les plaintes des gens qui viennent les voir pour dire qu'ils se sont fait taguer leur maison, quoi. Puis bon, bah, par rapport à ça, ils font des recoupements, ils compilent le nombre de plaintes que chaque personne suscite. Et puis le jour où ils arrivent à lui mettre la main dessus, eh bien. Eh bien, on le positionne devant un juge et répond ses actes. À Besançon, il y a un service d'effacement des graffitis qui a été créé en 1997.
De ma faute.
Ouais. C'est
de
ta faute.
Ils l'ont mis juste pour moi. Non, mais c'est vrai en plus.
C'était pas là en 97.
Ça me plaise.
Puis du coup, eux, ils proposent des contrats aux propriétaires, des contrats d'intervention où ils promettent de nettoyer les murs dans un délai d'une semaine. Pendant un an, c'est des contrats annuels.
Ils nettoient en dessous de 2,50 m, au-dessus ils nettoient tout.
Alors des fois, ils s'arrêtent au milieu.
Oui.
Du coup, il y a la brigade et le service qui est proposé, c'est ils viennent à chaque fois qu'il y a un graff, ils viennent l'effacer, quoi, sans que ça passe par une plainte du propriétaire, quoi.
Ouais, voilà, exactement, ouais.
Oui, c'est un abonnement, tu payes et puis c'est une bonne démarche, moi, je trouve. Hein.
Et ça, c'est
des murs blancs.
C'est payé aux deux tiers, voilà. par la municipalité, les impôts, et en fait, le proprio paye un tiers du coût du service. Et tu vois, ça pose problème au niveau politique parce que, tu vois, il n'y a pas vraiment de raison vraiment fondée pour que ce soit aux contribuables de payer la façade de chez Quick, par exemple. Mmh. Notamment quand tu vois qu'il y a une hiérarchisation des victimes, qu'on privilégie des commerçants, puis au détriment des façades du domaine public, quoi.
Donc on peut dire, en gros, dans ce qu'on a croisé, de ce qu'on a lu et de ce que les gens nous ont raconté, que face aux graffs, les municipalités, elles ont trois sortes de réponses. Une qui est de l'ordre de la répression, du coup le système juridique, la police qui est mise en place, etc. L'une qui est de l'ordre de la réponse, c'est l'effacement, quoi, le nettoyage des villes. D'ailleurs, on a lu des choses intéressantes sur comment rendre propre. Ça permet aussi à la ville de s'approprier ses rues. C'est-à-dire que c'est un certain processus d'appropriation par la municipalité de ses rues. Et ces politiques d'effacement, elles sont différentes aussi d'une ville à l'autre. C'est un peu ce que nous racontait Nicolas Mensch. Et enfin, on peut dire qu'une des réponses aussi des municipalités face à ça, c'est de contrôler, de réguler et de permettre aussi aux graffeurs de s'exprimer à certains endroits. Du coup, il y a des polémiques un petit peu autour de tout ce qu'on peut appeler les murs légaux de graff, etc. Et puis, cette polémique, elle va jusqu'au street art.
Afin de dissuader les adolescents de rejoindre les bandes de blousons noirs, en France, dans les années 60, les politiques s'étaient mobilisés en faveur des maisons des jeunes et de la culture. Ces structures basées sur l'éducation populaire, la culture artistique et sportive ont programmé dès les années 1980 des cours de danse hip-hop comme des ateliers de graffiti. Les années Mitterrand voient l'intégration des jeunes comme une priorité et, en 89, le contrat de ville accompagne cette politique. En 2007, le texte devient le contrat urbain de cohésion sociale et la promotion de ce que l'on appellera les cultures urbaines est un de ses axes. Dans le même élan, une valeur artistique sera reconnue au graffiti hip-hop par le ministère de la Culture et de la Communication, notamment sous l'impulsion de Jacques Lang. La mise en avant des pratiques juvéniles et urbaines liées au hip-hop est présentée comme un moyen de répondre à la problématique de l'exclusion et de favoriser la citoyenneté. Mais c'est aussi une manière de les saisir dans un cadre normatif. Afin de favoriser l'expression artistique du graffiti, des mairies ont mis en place des murs d'expression libre. Si par ces procédés, les graffiteurs trouvent des conditions favorables à l'exercice de leur art, beaucoup concèdent qu'ils s'y trouvent dénaturés.
À Rennes, il y a une trentaine de murs d'expression libre. Mais il s'avère qu'ils ont une politique qui est vachement différente de celle de Dijon ou de Besançon, quoi. La ville a mis en place cette politique après un procès qui opposait des graffeurs à entre autres la ville et puis... Ces peintres ont réussi à faire valoir la valeur artistique de ce qu'ils faisaient. Ça a lancé un débat dans la ville et puis l'idée de mettre en place un dispositif d'expression libre, quoi.
Ouais, moi je suis passé à Rennes une fois, il y avait tout un chantier où il y avait les palissades qui étaient dédiées à ça.
C'est à double effet, quoi. D'une part, ça permet à des gens de faire un peu ce qu'ils veulent dans ce cadre-là, qui reste un cadre. De l'autre part, ben, ça casse un peu l'aspect transgressif du mouvement, quoi. C'est de l'encadrement, donc ouais. Ça peut être aussi décrié comme une espèce de manière de domestiquer la chose.
Un tel dispositif ne représente rien de plus que la domestication pragmatique d'une idée fondamentale au sein d'un cadre limité et finalement contrôlable. Des graffiteurs boycottent les murs légaux.
C'est tellement facile de montrer une énième foire avec tous ces petits arrivistes dont les seuls graffitis se trouvent dans les ruelles entre chez Agnès B et le Grand Palais. Non, je parle des vrais, de ceux qui font leurs preuves dans la rue, le métro ou simplement dans les terrains vagues. Peu importe tant que leur démarche est sincère. Et ce qui définit cette sincérité, c'est la complexité de leur personnalité, l'évolution de leurs expérimentations, ceux qui cherchent avant tout à ne pas ressembler aux autres et qui savent se remettre en question, prendre des risques et qui se trompent parfois, souvent. C'est l'authenticité du personnage qui fait sa grandeur. Ces virtuoses du graffiti ne sont pas dures à trouver, nous les connaissons. Ils ne savent pas toujours se vendre. Ils ne passent pas leur journée à gratter à la porte. Les puristes sont plus durs à gérer, plus durs à cadrer, les hors normes, les introvertis, les autistes. Et parce que ce qui les motive n'est pas le profit mais leur sensibilité, leur rage ou leur intelligence, leur vision aura toujours une longueur d'avance. Marre du politiquement correct, du strict propre sur lui, des rebelles du premier rang, des « bonjour » et des « merci à la caisse par ici », du vide, du creux, du zéro talent, du graffiti décoratif, des bad toys pour les good boys, de faire des trucs tous ensemble, comme si j'étais ton pote. Moi je veux de l'esprit, de l'élégance, du scandaleux, de l'introspectif, du torturé, de l'émotif, de la déviance, du vitriol, des problèmes avec la justice et brûler Futura 2000. Je veux un truc qui plairait pas à ma mère. Quand tu fais ça, c'est que la ville a donné son accord. En fait, tu t'intègres dans une démarche qui n'est pas la tienne. Le graffiti légal, c'est pas vivant, c'est pas libre. C'est un passe-temps comme si tu pouvais aller te payer une heure de tennis le dimanche. Quand tu sais que ça va être chaud, tu trembles. Puis une fois que c'est parti, t'es clairvoyant, t'es alerte. T'es beaucoup plus performant que dans la vie de tous les jours. Quand tu fais attention à tout, t'arrives à peindre, à regarder à droite, à gauche, t'entends tout. Tu réagis au quart de tour comme un pilote de Formule 1. Tu as cette adrénaline qui te met un coup de boost. Après, tu peins. C'est ça qui est bon. Tu as le plaisir de peindre qui est majoré par le fait que tu dois aller vite. Après, quand ça redescend, t'obtiens le plaisir. Ça redescend sûrement comme un gars qui prend une dose. T'as la dopamine qui prend place sur l'adrénaline. C'est ça le graffiti. C'est pas une question de peinture, c'est une question d'action.
Et on écoute Jacques Martin, Je tague.
Je tague, je vois le monde en couleur. Je tague, je suis tagueur. Et j'ouvre les métros qui sont fermés. Mais c'est au métro Louvre que j'ai envie d'entrer. Je tague, je suis vandale, pas vandique. Je nargue le grand public. Et je deviens, les soirs où je sors, Michel-Ange Amolitor. Je tague, j'ai mes copains et ma bombe. Je tague, c'est l'hécatombe. Je tague, et pas besoin de pinceau. Je ne suis pas Léonard, Van Gogh ou Picasso. Je lâche mes saloperies sur les murs. Je crache ma sous-culture. Si les agents de la RATP n'arrivent pas à m'attraper, je rêve de taguer le monde entier. Je rêve de barbouiller la Grèce, New York et le mur de Chine. Si j'ai le sponsoring des peintures Valentine, je rêve de peindre en fraises écrasées les grilles de l'Elysée et d'aller faire comme ça en passant un nez rose au président. C'est super, je tague et les bourgeois ébahis regardent mes graffitis. Je tague pour exprimer mon mépris à un certain Malraux qui fit blanchir Paris. J'explose Ah que c'est beau la peinture, j'expose sur tous les murs. Un jour je vais taguer, pourquoi pas, ton sourire, Mona Lisa.
Ah, c'était Jacques Martin, je tague. On suppose que cette chanson, elle a été faite après le tagage de la station du Louvre à Paris, qui avait fait un peu scandale dans les journaux parisiens, parce que dans le clip, Jacques Martin chante devant une fausse station du Louvre et on voit des gens qui vont tout saccager. Alors les gens n'écrivent pas du tout leur blase ou ils écrivent rien du tout, ils font juste ils barbouillent tout en fait de peinture avec des bombes. Cette chanson, elle est pas mal, en plus d'être un peu rigolote et un peu absurde, elle est pas mal parce que elle permet de parler de pourquoi est-ce que on pense que les tags, c'est sale, parce que c'est quand même quelque chose d'assez consensuel de penser que taguer un endroit, c'est sale, ça fait crade, c'est une incivilité, c'est un manque de respect pour les choses. Et c'est ce que dit Jacques Martin, quoi. Les gens qui taguent crachent à la gueule de la culture, de la ville de Paris, méprisent les gens, etc. Alors, en dehors des critères esthétiques, parce qu'effectivement, on peut trouver ça beau ou moche, il faut bien se dire que les municipalités, pour réprimer le tag et le réprimer aussi durement que ce qu'on a vu tout à l'heure, elles ont besoin de cette idée, de construire cette idée que les taggeurs manquent de respect à tout le monde, quoi, à la population locale, etc., et que ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Et ça permet ensuite de pouvoir les réprimer. Alors, au-delà de ça, on propose ici, c'est un peu la proposition de l'émission, d'arrêter de penser que c'est sale ou que c'est pas sale, ou en tout cas de mettre ça un petit peu de côté, et de penser qu'à chaque fois qu'un tag a été fait, il y a un moment d'impunité qui s'est créé. On a lu ça dans un des articles sur lequel on a travaillé, cette idée que si le graphe crée de l'insécurité, parce que c'est ce qui est dit souvent, c'est parce qu'il crée l'idée que quelqu'un a pu faire une action illégale et qu'il n'a pas été puni pour ça, et qu'il le fait au regard de tout le monde, puisqu'il le fait dans l'espace public. Alors c'est une approche du tag qui est un peu plus intéressante parce qu'elle permet de penser notre rapport à l'impunité. Chaque fois qu'on voit un tag, on peut se dire que ici, pendant au moins 5 secondes à une demi-heure, suivant la beauté de ce qui a été réalisé, la personne a été impunie pour une action illégale qu'elle a commise. Du coup, suivant notre rapport à la police et à la répression, suivant qu'elle nous rassure ou qu'elle nous angoisse, on peut avoir des comportements de réjouissance ou de terreur face aux tags. Mais on se dit que c'est une manière de passer un peu outre cette idée un peu simple que le tag serait sale. On va finir par des lectures de textes et puis un petit retour de Chris qui nous parle du devenir révolutionnaire du tagueur.
Pour finir, je voudrais dire, de façon un peu facile, mais quand même sérieuse, que le graffiti a de grandes vertus pratiques comme préparation à l'insurrection, à la révolution et à tout ce genre de choses. Parce que si vous êtes un peu conséquent et que plus vous investissez dans le graffiti, plus ça va vous conduire à déborder, à excéder un peu les limites du graffiti lui-même. L'exemple de base, c'est que si vous faites du graffiti, volez vos bombes le plus possible. Les vraies bombes de graffiti, ça se vole très difficilement, mais il y a plein d'autres bombes qui se volent facilement. Pourquoi ? Parce que si de toute façon vous êtes parti pour prendre le risque de vous faire choper pour du graffiti, autant vous arrêter à la case précédente et vous faire choper pour vol à l'étalage. Donc si tout tagueur digne de ce nom, pour qui le graffiti a vraiment un peu une place importante dans sa vie, et un voleur émérite, vous volez vos bombes, donc vous arrêtez là, volez aussi votre bouffe et vos fringues, puisque il y a un effet de contamination comme ça qui fonctionne pas mal et qui se vérifie. dans, vraiment chez tous ceux qui pratiquent, qui sont très investis dans la chose, rapidement ils se rendent compte que ça n'a pas beaucoup de sens de passer sa vie à faire un truc où on risque d'être sanctionné pénalement. Clairement, graffiti, ça appelle le vol, ça appelle voler d'autres trucs. Si vous faites vraiment, vous allez apprendre aussi à voyager sans payer. Les taggers sont souvent, sont des mecs qui partent en vacances en se baladant dans les trains de fret, par exemple, ils soulèvent la bâche ou ils se posent tranquille en été au fond du transport de marchandises, destination inconnue, et puis hop, le train s'arrête, vous êtes arrivé, vous êtes en vacances, vous en profitez pour faire un peu de graffiti. Tout ça pour dire que le graffiti est manifestement une pratique excellente pour favoriser le développement des devenirs révolutionnaires de toutes sortes. Et par conséquent, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, et ben, vous pouvez commencer par faire du graffiti et sans doute vous serez sur la bonne voie.
Saïd baise la police. L'illégalité comme principe. La légalité n'a rien à voir avec la liberté. La légalité est pouvoir, le pouvoir est fluctuant. La légalité tout aussi évolutive, relative. La liberté ne s'octroie pas, elle se prend. Le graffiti est un moyen comme un autre de conquérir un territoire, à un moment donné, et d'en abolir loi et contraintes pour une certaine durée. Le graffiti doit fuir les espaces concédés à la liberté. Le graffiti est l'insurrection. Il n'y a aucune concession à faire avec l'insurrection. L'enjeu est de libérer un espace en étudiant les négligences du pouvoir et clandestinement y développer une zone autonome. Pour toute limite, les choix de ceux qui sont là et jouir de cet espace-temps avant qu'il ne retombe sous le joug du contrat social pour ressurgir ailleurs encore et encore. Parce que le graffiti est fait pour être vu, rappelant à tous l'existence et la possibilité de s'emparer d'un endroit et de se jouer des lois. Même si le graffiti sur métro est important, peu de métros peints circulent. Quand on sait que l'État verse 4,5 milliards d'euros par année à la RATP, on peut sans mal admettre un engagement souterrain de celle-ci vis-à-vis de l'État et du pouvoir. Dans sa démarche insurgée, le graffeur peut user de violence pour se défendre face au pouvoir, et son atout principal est l'invisibilité. Pour toute trace, un souvenir le graffiti lui-même. Stigmate que l'État tentera de rendre invisible à son tour via le service de nettoyage de la RATP. Le jeu du chat et du rat. Certains y trouveront un cri de désespoir, d'autres une vaine recherche de quelques moments de liberté. Pour d'autres, c'est une nécessité.
Parce que les révoltes libertaires classiques peinent à aboutir et sont souvent le nid de ceux qui ne savent pas vivre leurs idées. Quand a-t-on connu une société autonome où chacun vit librement? Jamais hors d'un contexte de lutte, pour ce qui est de nos sociétés occidentales. Comment défendre une idée dont personne ne connaît l'application? Il faut alors recréer ces contextes de lutte où la loi ne conditionne pas nos actes. Ainsi, il n'est plus question de grappiller la liberté, mais de la vivre, dans un espace-temps créé de façon autonome. Le graffiti parle de ça, en témoigne et le diffuse. Assister à un acte illégal est de l'ordre de l'extraordinaire. On le verra ou le vivra et ensuite on le racontera. De bouche en bouche, l'acte illégal deviendra fable. Légende urbaine et perdra tout attachement au réel. Autre situation, plus courante, on aura vu à la télé. Le peuple est rarement sujet, dans nos sociétés occidentales, à être nez à nez avec l'illégalité. C'est plus l'histoire de celui qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Le « vu à la télé » et autres diffusions par les médias restent les façons les plus courantes d'être informé sur l'illégalité. Mais plus le nombre d'actes illégaux est grand, plus le nombre de personnes évoluant hors contrôle social est important. L'État est alors en perte de contrôle. L'ordre social est menacé. L'État montre qu'il n'est peut-être plus en mesure de protéger son peuple. Le peuple a peur, il ne fait plus confiance à son gouvernement. Il est bien sûr plus confortable au gouvernement de cacher au peuple cette illégalité. Les médias en parleront peu, sauf si cela sert un but politique bien précis. L'évolution de la frontière, l'égalité, illégalité, le renforcement de l'appareil sécuritaire et l'abaînement, et à pas de loup, d'un nouveau fascisme. Le graffiti est média, il est à la portée et à la vue de tous, et raconte l'au-delà de la légalité, la liberté. On peut le censurer, mais à quel prix? Même si le peuple est rarement face à l'acte, il en voit quotidiennement le résultat. De quoi plaire à notre cher État sécuritaire? Perdrait-il la face à la vue de toutes ces preuves de son impuissance? Fuck the RATP movement, be a pirate!
On se quitte sur ces bonnes paroles de la Fuck the RATP Movement qui nous dit « Be a pirate ». Et du coup, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine de Vacarme en Réunion. D'ici là, enfin non pas d'ici là d'ailleurs, après ça, on vous donne rendez-vous pour le festival de hip-hop qui aura lieu aux Tanneries les 9 et 10 mai, Hip-Hop-O-Tanne, où le samedi après-midi, il y a aussi une session graphe. Et on se retrouve dans 15 jours pour Vacarme en Réunion. La semaine prochaine, c'est Terrain Vague. J'étais toute seule derrière le micro, mais on était au moins 15 ou 20 à préparer cette émission. Et on vous retrouve bientôt.
Quelque part, tu vois, t'as une montée d'adrénaline quand tu déchires un wagon de métro et ça soulage et ça fait du bien,
c'est pour
tu
la
vois, quelque
ouais,
part. Je sais pas, mais moi, quand je sors du wagon que j'ai tout niqué, quelque part, je me sens bien.
Bah ouais, non, mais à fond que tu te sens bien, mais bon...
Ça fait du bien, hein, ça soulage.
Le style, c'est les lettres, le goût, c'est les couleurs, le support, c'est le taux de risque, les risques, c'est nos valeurs. Ça, c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer, on peut pas nous voir en peinture. Graffiti culture.
Et c'est ce scène, graffiti culture.
C'est descendre sur la ville, c'est monter sur les toits, ça c'est pour toute la vie. En marche des lois et de l'état, ça passionne et ça rend fou. C'est underground, non en dessous. Ouais, le goût, c'est les couleurs, et y'a deux styles dans la couleur. On arrive les poches vides et on repart la barque à pleine sponsor par la ville. Tout est gratté, tout est gratuit. Tom tout top dans un entrepôt entre potes. Faut bien faire le stock pour les tags et les blocs. Pas de calme, que de la tempête, ça cartonne, un camtar ça flop. Des stars, on a que la poussière, qu'on décolle des stores. Chemin et rideau de fer, on est dans une autre sphère. Et t'as gâte tous les étages, avec ou sans échafaudage. Une pince dans un étui de guitare, on ouvre des portes, clé des postes, type le décor, descend du toit. Pour se réfugier dans une gare, je peux pas m'en défaire. J'explose mes lignes de conduite, mes partenaires, la poussière. Un œil dans le dos, escompte biche, jamais star, je promets. Toujours stack, chromé, sur une porte fermée, que seule la police a cerné. Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer. On peut pas nous voir en peinture, graffiti. Culte zombie dans le combi, affûte leur combine. You know what I mean. Aimanter le bruit de la vie, projeter les serrures, soulever les trappes et les grilles. Nos yeux brillent, un guichet vide. En bouquet, un SDF. En poule D dans la station, stressé, avance le pas décidé. Léger, y'a plus d'usagers, et j'suis pas le plus fâché. Sur le carré jaune, danger. Get, j'crois qu'il y a des types. Bande blanche, signalétique. Rouge comme un pigalle, c'est mon monde parallèle. Les rails se rejoignent à l'infini. Un skinny, des ombres, des rats et du style dans chaque panel. On éteint de l'or et de l'argent dans la pauvreté de nos trajets. La couleur qui sort du cap, tu rentres chez toi, faut la cracher. L'équipement de l'équipe, masque tri, sac à dos trié. Comme des poulets en batterie, plus bactères, bactéries. Nous on trouve nos marques ici, sur vos murs, vos carrosseries. Du chrome et de l'acide, du fond de nos tunnels on brille. Première pensée, sensée de la journée, oh. Des gratte-ciel, qu'est-ce que je vais encore dégrader? Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer. On peut pas nous voir en peinture. Graffiti, culture, vapeur, obscurité. Tout gras, ses poumons saturés. Oubliez l'oseille, tendre l'oreille. Port du masque obligatoire. Blanc, blanc, bloc opératoire. Le troisième rail, c'est la mort électrique. Enterré vivant d'or devant nous, un géant d'acier. Vite pris d'assaut par une punition des colis. Wall-car, all-cœur pour le conducteur. Et sur le quai, les usagers sont sur le cul. Brigadés sur le coup, on taille dans les rayons courts. Et coupe le courant, une bifurcation, une trappe. Une échelle, on sort en troupe. On se disperse, change de quartier, de ligne. Et je distingue, très loin d'un hip-hop en berline. Le mien est remis sur les rails, chaque tag le ressuscite. Et même si la ville est réduite, au silence que les murs m'écoutent, les enceintes font courir le cri. J'ai le rap pour les aveugles et pour les sourds, le graffiti. On aime les surfaces lisses comme des b-boys. Ceux qui signent du droit sont des petits boys. C'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer. On peut pas nous voir en peinture. Graffiti culture.